Alle sur le livre aux Romains, cette épître a été découpée de manière différente suivant les commentateurs. Nous allons la regarder en cherchant la manifestation de l'Évangile. Dans le début de l'épître, jusqu'au verset 15 du chapitre 1er, Paul est conduit à introduire l'Évangile. Dans les versets 16 à 17, il nous dit un petit peu ce qu'est l'Évangile, l'Évangile expliqué. Nous lisons ces deux versets là. L'Évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, à tous, aux Juifs premièrement et aux Grecs. Puis, la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Voilà donc quelque chose de fondamental. Du verset 18 de ce chapitre jusqu'au verset 20 du chapitre 3, nous avons une indication sur le fait que tout le monde a besoin de l'Évangile. C'est l'Évangile nécessaire pour tous. À la fin du chapitre 3, du verset 21 jusqu'au verset 31, c'est le fondement et le contenu de l'Évangile, avec en particulier ce verset « Dieu est juste », verset 26, justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Alors, puisque tous sont concernés ici, en particulier juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, on peut se demander s'il y a une relation avec l'Ancien Testament et si l'ensemble est cohérent. Alors, le chapitre 4 nous donne une information sur l'harmonie de l'Évangile avec l'Ancien Testament. Au chapitre 5, nous entrons dans les bienfaits de l'Évangile jusqu'au verset 11. Et puis, un point clé est expliqué dans la fin de ce même chapitre, l'efficacité de l'obéissance de Christ pour répondre à la désobéissance d'Adam. Quelque chose de fondamental qui ouvre effectivement une vraie liberté. Alors, comment vivre? Eh bien, le chapitre 6 ouvre sur la possibilité d'une marche saine dans la foi. Ensuite, on peut se poser des questions, puisqu'il y a des juifs et des non-juifs, sur ce qu'il faut faire de la loi. Alors, le chapitre 7 introduit justement la place de la loi dans la vie du chrétien. Puis, il n'y a pas de capacité intellectuelle pour vivre les choses de Dieu, alors le chapitre 8 nous donne une clé, la nécessité et la puissance de l'esprit pour vivre une vie sainte, complétant ainsi en particulier le sujet du chapitre 6. Alors Israël, là-dedans, eh bien les chapitres 9, 10 et 11 nous présentent le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Se termine alors une partie appelée souvent la partie doctrinale de l'Épître aux Romains. Et à partir du chapitre 12, nous entrons en quelque sorte dans l'Évangile vécu. Avec les deux premiers versets du chapitre 12, c'est l'Évangile vécu dans une consécration personnelle. Ensuite, jusqu'au verset 8, l'Évangile vécu dans le service avec l'exercice des dons. Ensuite, du verset 9 jusqu'au verset 21, c'est l'Évangile vécu en relation avec la société. Au début du chapitre 13, jusqu'au verset 7 en tout cas, c'est l'évangile vécu en relation avec l'autorité ou avec le gouvernement. Ensuite, du verset 8 à la fin du chapitre, c'est l'évangile vécu en se projetant dans l'avenir, c'est-à-dire en embrassant ce qui nous attend. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et le chapitre 14, donc, sur lequel nous allons nous arrêter, commence une portion qu'on arrête quelquefois au verset 7 du chapitre 15 et que nous avons poursuivi ici jusqu'au verset 13 du chapitre 15. C'est cette fois l'évangile vécu dans les relations chrétiennes avec des personnes qui peuvent venir de tout milieu. Et l'exemple du Seigneur Jésus dans le chapitre 15 en particulier montre qu'il est venu pour les Juifs, mais que son œuvre et ce qu'il a opéré s'étend à tous les hommes. Donc une ouverture pour nous dans la liberté, en pensant à ceux qui viennent dans la sphère chrétienne de différentes sources, les musulmans par exemple. Et le verset 13 apparaît comme une sorte de conclusion de cet ensemble-là, présentant le Dieu de l'espérance et puis la puissance de l'Esprit-Saint pour réaliser ses enseignements pratiques. Dans la suite, c'est l'Évangile en relation avec les projets de Paul, fin du chapitre 15, et dans le chapitre 16, alors c'est l'Évangile avec une véritable reconnaissance pour ce que Dieu a conduit les autres à produire. Le chapitre 14 se découpe en particulier avec d'abord une liberté individuelle, ensuite une liberté en relation jusqu'au verset 7, ensuite une liberté en relation avec la responsabilité jusqu'au verset 16. Ensuite, c'est une liberté en relation avec la communion fraternelle. Et ensuite, l'exemple de Christ au début du chapitre 15. Donc, nous faisons la lecture ici jusqu'au verset 16, comprenant les deux premiers points.
Donc, nous lisons Romains au chapitre 14, versets 1 à 16. Je lis dans la nouvelle traduction, comme ça vous pouvez comparer avec votre traduction préférée. Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le, non pas pour décider sur des points sujets à discussion. L'un croit pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible, mange des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui? C'est pour son propre maître qu'il se tient debout ou qu'il tombe. Et il sera maintenu debout, car le Seigneur est puissant pour le maintenir debout. L'un estime un jour plus qu'un autre jour, et l'autre estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Celui qui fait attention au jour, le fait à cause du Seigneur. Et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Celui qui s'abstient de manger, s'abstient à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, c'est en ayant égard au Seigneur, et si nous mourons, c'est en ayant égard au Seigneur. Donc, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. En effet, c'est pour ceci que Christ est mort et a repris vie. C'est afin d'être Seigneur à la fois sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou encore toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit en effet, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou se ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme étant Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc pas plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Je sais, et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus, que rien n'est souillé en soi. Mais si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Car si à cause d'un aliment ton fer est peiné, tu ne marches plus selon l'amour. Par ton aliment, ne cause pas la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé. Alors, je voudrais lire aussi les questions qu'on a données dans la lettre d'invitation, juste pour mémoire. Ces questions ne sont pas exclusives et on n'est pas obligé de les traiter toutes, mais on peut les lire pour se les rappeler. Comment accueillir, selon Dieu, un chrétien faible dans la foi ? Pour vivre en heureuse communion, quelles divergences sont acceptables ou non ? Que faire pour ne plus juger, voire mépriser, un frère ou une sœur sur certaines de ses pratiques ou convictions ? À propos des jours, quelle importance accorder au dimanche ? Le tribunal de Dieu concerne-t-il le chrétien ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? En quoi cela nous enseigne-t-il pour nos rapports entre chrétiens ? La conscience doit être éduquée. Chaque chrétien doit-il suivre la sienne à son niveau de conviction dans la foi ? Juste quelque chose de pratique que j'ai à cœur. On a parlé tout à l'heure dans la prière de la liberté de l'esprit. Et voilà, j'invite vraiment à tous les frères, même ceux qui sont hors micro, de s'avancer, ou même, pourquoi pas, de parler hors micro, il n'y a pas de souci. Et s'il y a aussi des questions, pourquoi pas faire passer un petit papier avec des questions à l'un ou à l'autre, on peut lire la question. C'est une façon peut-être de que ces échanges soient les plus fructueux possibles. On peut aussi faire passer cette petite question à l'intervalle de midi.
Alors, il y a des questions qui se sont posées. Comment est-ce qu'on va faire pour que ça marche bien ? Pour venir ici, ce matin, j'ai fait le plein de gasoil. Et avec le plein de gasoil, j'ai pu arriver jusque-là. Alors, on pourrait se dire, comment est-ce que je vais faire pour vivre avec des gens différents ? On va essayer de mettre des bonnes règles. Mais ça ne me fera pas avancer. Il faut remplir l'intérieur de ma vie de quelque chose qui va faire que je vais pouvoir être quelqu'un qui accueille, par exemple. Donc si on cherche des règles, on n'y arrivera pas. Parce que la preuve, c'est que on n'y arrive pas bien. Et c'est pour ça que toute cette partie de l'épître commence par deux versets essentiels pour qu'on puisse vivre ce qu'on a dans notre chapitre, c'est les deux premiers versets du chapitre 12. Alors, Jacques a expliqué comment se déroule la démonstration de l'apôtre Paul. Mais je voudrais relire les deux premiers versets du chapitre 12 parce qu'il dit « Je vous exhorte donc ». Ça commence comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une déclaration, il y a eu une découverte dans cette lettre. Frères, par les compassions de Dieu. Et le chapitre précédent, la démonstration s'arrête par une adoration. Hein, que, aux profondeurs des richesses, tout est merveilleux. Où est merveilleux ? Ben, dans le cœur de Dieu. Tout le monde a été rassemblé, constaté pécheur, mais rassemblé dans l'amour de Dieu. Et on voit que présenter vos corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire tout notre être, on offre à Dieu, qui est saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Il y a une petite règle là. Ne vous conformez pas à ce siècle. Ah oui, c'est vrai, le siècle, c'est le monde, c'est égoïste, on écrase les autres, etc. On comprend bien que si on se conforme au siècle, ce qu'on a lu, là, ça marchera pas bien. Même si on prend des bonnes règles. Mais, voilà, la clé, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. et dans les chapitres qui vont suivre, le développement de cette volonté de Dieu nous est révélé. Alors, c'est quoi, entre autres? Eh bien, de s'accueillir les uns les autres. Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses. C'est qu'on est complémentaires les uns les autres, puisqu'on forme chacun, on est membre du corps de Christ. Comment se comporter avec les gens qui sont autour de nous, dans le monde, les autorités, etc. La volonté de Dieu a donné des règles, et on les a dans ces différents chapitres. Mais on comprend que si notre être intérieur n'est pas renouvelé par l'action de l'Esprit de Dieu, impossible de vivre ce qu'on a lu aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, le gazole qui m'a permis de faire mes 120 km ce matin, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matin, quand je me lève, j'offre ma vie à Dieu. Si je suis pas dans cet état d'esprit, impossible de vivre, même avec des bonnes règles, ce qu'on a lu aujourd'hui. Alors ça, c'est la première chose, c'est ce renouvellement. C'est-à-dire que notre être intérieur est renouvelé. Deuxième chose, on a dans le chapitre 13, une chose assez essentielle, c'est écrit « L'amour donc est la somme de la loi ou le tout de la loi ». Donc, ça ne peut fonctionner que si tout est une base d'amour. Mais je peux aimer si moi-même je suis conscient d'être aimé d'un amour extraordinaire par l'amour de Dieu. Donc si je suis absolument imprégné chaque jour, chaque matin commençant ma journée, de cet amour extraordinaire, de cette grâce de Dieu, alors je vais pouvoir avoir quelque chose, une dynamique d'amour dans ma vie. Troisième chose, juste avant le texte qu'on a lu, il est dit « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. » Revêtir, c'est-à-dire ce qu'on voit de l'extérieur. Mais en fait, l'évangile qui a été annoncé dans cet épître, c'est quoi? C'est une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on découvre que cette personne du Seigneur Jésus-Christ vient habiter en moi. Mes voisins, mes frères et sœurs, quand ils me voient, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient cette personne qui vit en moi? Alors, il est dit « revêtez ». Ça veut dire que mes motivations vont avoir un impact dans ce qui est vu de moi. Et c'est le Seigneur Jésus. Alors si c'est ça, alors on va pouvoir vivre ce qu'on a dans ce chapitre. Sinon, ça fonctionne pas. Donc il me semblait nécessaire d'avoir ce préalable. On ne peut vraiment vivre ce qui est selon la volonté de Dieu dans nos relations les uns avec les autres, parce que Dieu nous a, si nous sommes différents au départ, nous continuons à être différents. Et il n'y a pas un gommage des différences, non. Nous sommes toujours différents. C'est ça qui est difficile de vivre quand on est différent. Mais si on vit ça avec cet renouvellement de notre intérieur, alors ces différences vont devenir quoi? Une richesse pour chacun. Et on va tous grandir grâce à nos différences.
Quelqu'un qui domine, si on peut dire. Tout le long de ces 16 versets, il est question du Seigneur. Nous faisons quelque chose à cause du Seigneur. C'est le Seigneur qui tient debout. C'est au Seigneur que nous rendrons compte. Et dans un sens, aussi pour que nous puissions vivre ce qui nous est appris, ce qui nous est enseigné dans ce chapitre, eh bien, il faut aussi que dans ma vie, le Seigneur Jésus soit le Seigneur. Et que ma confiance, à tout moment, soit dans le Seigneur. On aura certainement l'occasion de, en lisant un peu tout ces, en approfondissant un peu ce chapitre, de voir que si l'apôtre Paul nous enseigne que si vraiment le Seigneur est Seigneur, alors j'ai confiance dans le Seigneur pour qu'il agisse. C'est lui qui s'occupe de mon frère. Et comme a priori que mon frère, il est réellement soumis au Seigneur, il désire plaire au Seigneur. Et pour moi, j'ai besoin aussi de vivre cela. Et dans cette harmonie, dans ce désir de chacun de vivre en ayant cette vraie soumission d'amour au Seigneur Jésus, les choses deviennent alors avec un angle un peu différent que ce que nous pourrions vivre si nous oublions que le Seigneur est Seigneur.
on peut, au début de cette étude, bien remarquer le fait qu'il est question de questions douteuses dans notre version, mais la nouvelle dit des points sujets à discussion. Alors, c'est important de bien savoir qu'il ne s'agit là pas du bien ni du mal. Le bien dans le sens absolu, c'est bien pour tout le monde. Et le mal est mal pour tout le monde. On ne peut pas... il est question de discerner par la puissance de l'esprit, par la maturité spirituelle, avoir les sens exercés pour discerner le bien et le mal. Le bien, il n'est pas question de tolérer du mal dans ce chapitre. Et il n'est pas question de désapprouver le bien. Ce sont les questions douteuses ou questions sujets à discussion. C'est très important de le remarquer, ça, d'abord. Et puis, autre chose... un frère qui n'est plus de ce monde maintenant, qui avait le Seigneur, disait, il faut laisser chaque perle dans son écrin. Alors, la parole de Dieu ne peut pas nous enseigner tout au même endroit. Ici, nous n'avons pas d'autres, nous n'avons pas tous les enseignements, nous avons un enseignement très particulier de relations fraternelles, et nous allons le voir, c'est très utile ce sujet. Mais, ça ne met pas en cause, les enseignements qu'on trouve ailleurs. D'abord, premièrement, il n'est pas question dans ce comportement des frères d'y attacher à la moindre parcelle d'efficacité pour le salut. Rien, même pas une dose infinitésimale, c'est quelque chose qui n'est absolument indépendant du salut. Et ça, nous avons l'enseignement dans l'Épître aux Galates, où l'apôtre parle, ne marche pas ses mots, et parle avec vigueur aux Galates insensés qui vous ont ensorcelé. Comment reviendrez-vous, après avoir été libéré, aux misérables éléments dont vous avez été libéré? Ça, c'est une chose. D'autre part, il n'est pas question là de la vie de l'Assemblée. D'ailleurs, ce n'est pas le propos, en principe, de toutes l'épître aux Romains, à part le chapitre 12. Mais ce n'est pas le propos principal. Il n'y a en tout cas pas dans ce chapitre. Il n'est pas question, là, de la vie d'Assemblée, comme on le trouve dans l'épître aux Corinthiens. Chaque perle est dans son écrin. Voilà. Là, il s'agit d'une relation, donc on va le voir, de contact de frère à frère, de sœur à sœur, d'une manière plutôt individuelle. Mais il n'est pas question d'autre chose. C'est important qu'on le sache pour bien ne pas faire d'amalgame avec d'autres enseignements. J'espère que je me fais comprendre. Quand il est question de réception, il faut nous recevoir, enfin nos frères, recevoir dans notre cœur. Peut-être même dans nos foyers, même sûrement. Mais il n'est pas question, là, de l'Assemblée. Il y a encore moins de la table du Seigneur. Voilà, alors, nous restons bien dans le cadre de ce sujet, qui a une grosse importance par ailleurs. Voilà.
Le bien et le mal, c'est théorique, parce que la discussion, dans la nouvelle version, il est question de sujet à discussion. La discussion, elle a lieu précisément parce que pour moi, c'est bien... Et ce que tu fais, c'est mal, alors que c'est l'inverse. Donc, c'est purement intellectuel. Ça, la discussion, elle est là. Et justement, c'est pour ça que ce passage va être important pour nous, parce que moi, je vois mon frère qui fait quelque chose et je considère que c'est mal. Et comment je vais faire? Donc, c'est...
un frère a un comportement et c'est bien. L'autre frère a un comportement inverse, mais c'est encore bien. Ça nous montre bien qu'il ne s'agit pas là, devant Dieu, de ce que Dieu appelle bien et de ce qu'appelle mal. Voilà pourquoi ce chapitre est utile. Alors, je pense qu'on peut le dire d'emblée, nous n'avons ni à mépriser notre frère, ni à le juger. Et puis, nous allons voir en pratique ce que cela comporte. Il y a une certaine délicatesse de cœur, et comme a dit peut-être Jean-Luc, quand il y a l'amour pour le Seigneur, eh bien, tout se simplifie.
exemple qui permet peut-être de clarifier l'échange là, c'est que c'est celui qui est donné dans ce chapitre 14, les jours, le sabbat. Le frère juif n'envisageait pas ce jour-là. Aujourd'hui, il n'envisagerait pas d'appuyer sur un bouton électrique pour allumer la lumière. Alors, à l'époque, il faisait pas de feu, il cuisinait pas, il marchait le chemin d'un sabbat, c'est un peu moins d'un kilomètre, je crois. Enfin, il y avait une limite extrême. Puis à côté de ça, il y avait le frère d'origine grecque, romaine, qui lui, il vivait normalement ce jour-là. C'était un jour comme les autres, c'est dit ici. Et ils se scandalisaient franchement l'un l'autre sur des choses qu'ils estimaient fondamentales. Alors, c'est sûr, bien et mal selon l'écriture, mais ça va très loin.
Peut-être qu'il faudrait plutôt dire, non pas bien et mal, mais le péché. Et donc la parole de Dieu dénonce le péché, il ne s'agit pas d'accepter le péché. Mais par contre, il s'agit aussi de souvent dans nos convictions personnelles, devant le Seigneur, on pense qu'il est juste d'agir d'une certaine manière. Notre tendance personnelle, c'est ce que je pense devrait devenir la règle des autres. On aura peut-être l'occasion de voir d'autres passages dans les évangiles où le Seigneur nous enseigne sur ça. Quand il nous dit, par exemple, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mais il ne veut pas dire qu'il faut couper la main de tout le monde. Et puis il y a une autre chose encore. Bien sûr, chaque perle dans son trou, dans son écrin. J'étais à Bordeaux quand le frère, c'est Alfred Lahut qui avait dit ça, et c'était à propos de l'épître de Pierre. On lui avait posé une question pour comparer quelque chose entre l'épître, un verset de l'épître de Pierre, une autre dans une autre épître, et Alfred Lahut avait répondu chaque perle dans son écrin. Et ce que j'ai compris de ce qu'il avait dit là, c'est que il faut vraiment faire attention quand on étudie la Bible, la parole de Dieu, de recevoir l'enseignement particulier de chaque épître. De telle sorte que l'épître aux Romains, on l'a vu, a un enseignement. Et en particulier, j'aimerais peut-être souligner une chose. Tout à l'heure, Jacques a parlé de l'évangile. Mais définir un peu ce qu'est l'évangile, c'est pas simplement annoncer le salut. L'apôtre Paul, au début de cette épître, il dit aux Romains, qui étaient une assemblée, à des chrétiens, il leur dit « J'aimerais venir vous voir pour vous annoncer l'évangile ». Qu'est-ce qu'il va leur annoncer? Il va leur annoncer non pas le salut, mais les effets de l'évangile dans leur vie, et c'est ce qu'on a vu dans le plan que tu as donné. Et alors, dans notre chapitre, il s'agit des relations entre enfants de Dieu. Il me semble, mais on y reviendra, que c'est dans le cadre de ce que l'on appelle le royaume de Dieu. C'est un aspect de la vie chrétienne et de ce que nous sommes quand nous avons cru au Seigneur Jésus, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, dans un sens, nous sommes sous l'autorité du Seigneur et c'est l'aspect du royaume de Dieu. Quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons le même Père et c'est l'aspect de la famille de Dieu. Et quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes membres du corps de Christ et c'est l'aspect de l'Église. Et ce sont trois aspects complémentaires de l'enseignement de la parole de Dieu et qui parle de la position du chrétien une fois qu'il est accru. Mais ces trois aspects ne sont pas compartimentés de telle sorte qu'il y a un aspect qui ne concerne pas l'autre. Nous sommes chrétiens tous les jours. Nous sommes enfants de Dieu tous les jours. Nous sommes membres du corps de Christ tous les jours. La vie de l'Assemblée, c'est pas simplement les réunions. Les réunions, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais si entre les réunions, il n'y a pas d'harmonie, nous ne savons pas nous recevoir, nous méprisons l'un, il y a des jugements, etc., les réunions, elles ne vont pas être... l'harmonie, la communion dans les réunions, ça ne va pas être extraordinaire. Et la seigneurie de Christ ne sera pas vécue. Donc on ne peut non plus, quand on lit ce passage, il ne faut absolument pas que nous pensions notre vie est chaque aspect est indépendant les uns des autres. C'est un ensemble, et chaque perle dans son écrin, mais ouvrons tous les écrins pour comprendre ce que Dieu veut nous apprendre. Et dans un sens, la perle qui est dans l'écrin 1 mettra en relief aussi la perle qui est dans l'écran 2. Et quand nous aurons regardé l'ensemble, notre compréhension de ce que Dieu attend de nous sera certainement beaucoup plus grande.
Il y a donc bien, dès le verset premier, une pensée très importante dans le sujet qui est devant nous, le bien de l'autre et le profit de l'autre. Celui qui est faible en foi, c'est celui, on le voit dans le contexte, qui se pose un certain nombre de questions, qui a des scrupules, l'un en a, peut-être sur certains points pendant un certain temps, puis il lit la parole de Dieu, il vit avec le Seigneur, et cette personne-là apprend à être plus libre sur certains points, elle a moins de scrupules dans certains domaines, mais elle découvre en même temps d'autres précisions de la parole de Dieu, et elle entre dans d'autres scrupules sur d'autres points. Alors, le verset premier met bien l'accent sur quelque chose d'essentiel, « Je respecte l'autre où il en est. Je ne viens pas pour détruire ce qu'il a acquis jusque-là, mais je le reçois en pensant à le faire avancer. Et par conséquent, tel qu'il est. Mon but n'est pas de dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». Mon but est de dire « ah, il en est là, tiens, mais ici, il en est un peu plus loin que moi, j'apprends quelque chose de lui. Là, je peux peut-être l'aider, alors je vais chercher à l'aider, mais je le reçois. » Et il y a quelque chose d'important sur quoi nous nous arrêterons un peu plus tard, qu'on retrouve en 1 Corinthiens 8, comme le frère pour lequel Christ est mort, c'est-à-dire qu'il y a là une présence divine, un acquis divin devant lequel je me fais petit. Donc, avec ce frère-là, ou cette sœur, bien entendu, pour les choses qui sont délicates, ou sur lesquelles il a des scrupules plus ou moins bien fondés, je ne discuterai pas. Je vais nourrir sa foi, non pas l'ébranler, mais le servir. Ça, c'est quelque chose d'essentiel.
Recevez-le peut aussi se traduire accueillez-le. Et le terme grec renvoie, paraît-il, à une acceptation personnelle et volontaire des uns des autres. Donc, c'est vraiment une acceptation de l'autre dans ses différences, ses opinions secondaires qu'il peut avoir ou ses pratiques secondaires qu'il peut avoir. C'est vraiment un accueil. Quand j'accueille quelqu'un, j'ai le sourire, je suis bienveillant dans mon attitude, c'est ça. Hein, c'est pas simplement je supporte cette différence, mais vraiment une attitude positive. J'aimerais qu'on définisse ce que c'est qu'un frère faible dans la foi au début. C'est peut-être un terme un petit peu difficile. Il me semble que c'est quelqu'un qui a une conscience exagérée, même si ça marche et selon Dieu. Est-ce qu'on peut définir ce mot foi, puisqu'il a plusieurs acceptations? Et autre question annexe, est-ce qu'on peut pas être tous des frères faibles dans la foi, dans certains domaines? Dire pour moi, c'est quelque chose, ça j'accepte mal de le voir chez les autres. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des frères faibles dans la foi pour tout et des frères forts pour tout?
Je pense que le faible dans la foi, c'est une question de discernement en ce qui est essentiel et en ce qui ne l'est pas. Je voudrais peut-être, sans vouloir m'écarter du sujet qui est placé devant nous, rappeler un certain nombre de faits pour montrer l'extraordinaire actualité de ce que nous avons lu. Alors je vais essayer d'être bref. Et quand Paul écrit à ses Romains, il est bien informé de la situation. Et il sait qu'il y a des dissensions, qu'il y a des rejets, qu'il y a des problèmes. Rome, à l'époque, est une ville extraordinairement cosmopolite. Si je vous demandais, par exemple, quelle est la principale religion pratiquée à Rome à cette époque-là, eh bien, vous seriez peut-être surpris de savoir que c'est le mithradisme.
c'est-à-dire la religion consacrée à Mitra, le dieu soleil. Ce n'est pas la vieille religiosité gréco-romaine. Ça reste un substrat, on maintient les formes, on n'y croit pas. On n'y croit pratiquement pas. Il y a une très forte communauté juive, très importante. Parmi ces gens, ces anciens adeptes du culte à Mitra, qui est un culte solaire, un culte à salut, à la différence de la vieille religion gréco-romaine, il y en a un certain nombre qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, mais qui ont gardé encore, par exemple, un certain nombre d'aspects de leur religion. Les juifs, judaïsants, on le sait, acte 15, étaient très attachés également au judaïsme. En quoi cette situation est-elle extraordinaire d'actualité ? Nous vivons une période singulière. Depuis, on va dire, je dirais 1989, la chute du mur de Berlin, nous avons dans notre Occident chrétien un brassage extraordinaire. À titre d'exemple, je connais un petit peu la situation à Paris, je vais vous l'évoquer très rapidement, il y a plus de 200 églises ethniques africaines. Il y a 3 églises roumaines orthodoxes, depuis très peu, depuis quelques années. Une vingtaine d'églises chinoises. Tous ces gens-là pratiquent leur christianisme à leur façon, avec leurs particularismes locaux, culturels, et ne se rencontrent pas trop, ou s'ils se rencontrent avec d'autres chrétiens, cela pose des problèmes. Alors, Paris serait la Rome, au temps de l'apôtre Paul. Et voyez les problèmes que cela pose. Chacun est attaché à son credo, avec opiniâtreté, avec aussi beaucoup de bonnes dispositions, chacun pense avoir raison. Et il faut que tous ces gens-là vivent ensemble leur foi, parce que le christianisme, c'est l'universalité. Il y a eu le particularisme avec le peuple juif, le peuple de l'Alliance, mais dans ce particularisme devait sortir l'universalité. Et toute la difficulté, et elle est encore de nos jours tout à fait, ça dépasse un peu le cadre de cette salle, mais peu importe, je le dis quand même, toute la difficulté est de se comprendre, parce qu'on ne parle pas le même langage, de s'accepter avec ses propres particularismes, ses propres différences. Et ce qu'il y a de merveilleux dans le christianisme, c'est que la chose est possible. Et c'est le thème même de ce chapitre 14, de cet épître aux Romains. Alors, à notre niveau, évidemment, il en est un petit peu différemment, mais moi je viens d'une assemblée qui s'appelait Aulnay-sous-Bois, qui était dans le 93, donc vous voyez, avec une population aussi très différente et très hétérogène, très cosmopolite, et on a eu un certain nombre de familles africaines qui nous ont posé un problème au niveau de l'intégration. Il a bien fallu faire avec. Alors, les faibles, les forts, bon, chacun avait ses habitudes et ses coutumes, ils n'avaient manifestement pas tout à fait la même façon que nous, n'est-ce pas, de faire le culte, par exemple, de célébrer le culte. Il a fallu composer, il a fallu établir non pas des compromis, mais disons, s'écouter, s'entendre, expliquer les choses, et je crois que là, c'est une très bonne disposition. Je pense que nous ne devrions pas vivre dans notre petit monde avec notre credo personnel, nos idées personnelles, nos préjugés, nos présupposés, et puis juger, hein, le mot revient très souvent dans ce chapitre, juger les uns les autres sans les connaître. Alors voilà, simplement resituer ça dans ce contexte, et je trouve que c'est un très beau sujet qui correspond tout à fait à notre époque.
Est-ce que la réponse à la question, c'est pas le premier verset du chapitre 15 ? Nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles. Les forts, c'est nous, et le faible, c'est l'autre. Ce qui nous conduit à lire à relativiser notre point de vue.
Je crois qu'il y a un passage qu'on peut avoir dans le cœur, c'est celui que nous voyons dans Philippiens 2, que rien ne fasse par un esprit de parti et vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. J'oserais pas dire, moi, que je suis le fort, et puis que mon frère est le faible. Non, c'est contraire à ce qui nous est dit, là. Ayons une estime mutuelle, et ce n'est pas parce qu'un frère se sent tenu d'un comportement que nous avons à le mépriser. C'est l'enseignement. À la condition que ce frère ne voit pas là quelque chose qui est lié au salut, que c'est quelque chose qui n'est indépendant du salut. Ça, on ne pourrait pas le supporter, qu'il y ait un sentiment de sécurité parce que je fais ça, donc je suis sûr d'être sauvé. Vous voyez, le danger, la limite, du moins la limite. Mais véritablement, si nous sommes humbles, eh bien, moi, je n'oserais pas me mettre du côté des forts.
En fait, souvent, on pense que le faible, c'est l'autre, parce qu'il y a le verset premier du chapitre 15. Et c'est plus confortable. Certainement, nous avons, dans la question de faible et fort, il y a une question de croissance spirituelle. Le faible, dans un sens, il a besoin de grandir dans la connaissance de la pensée de Dieu. Et celui qui est fort, dans ce passage, c'est celui qui, dans un sens, ayant, alors en dehors du côté culturel, ayant grandi dans la... ayant appris ce qui était au début de cette épître, il est libéré sur bien des choses quant à la vie chrétienne. Quand j'ai compris que dans la liberté qui est en Jésus, il y a des choses que j'aurais apprises. Mais d'un autre côté, quand on va voir dans la journée, devons-nous les forts porter les infirmités des faibles, c'est dans l'ensemble de l'étude qu'on a, de l'enseignement qu'on a, ce dont il est parlé juste avant, il est question de marcher dans l'amour, il est question, juste après, de l'attitude du Seigneur Jésus. Donc, nous, ça nous concerne tous, oublions le mot fort, nous devons penser à mon frère, je dois penser à mon frère pour porter avec lui, pour m'approcher de lui, pour penser toujours à aider. Et ça, c'est marcher sur les traces du Seigneur Jésus. Mais le faible a besoin de grandir dans la connaissance de la pensée de Dieu, et apprendre petit à petit dans sa vie à abandonner certaines béquilles qui lui semblaient essentielles. Et celui qui est fort, c'est peut-être quelqu'un qui, dans certains domaines de sa vie, a découvert davantage ce qu'est la liberté en Christ.
En tous les cas, ne refusons pas le mot de fort, parce qu'il y a beaucoup d'exhortations qui sont adressées aux forts. C'est celui qui doit supporter, et quand je vois qu'il y a une occasion de support, ben, la parole me met du côté des forts, précisément pour supporter. Alors tu as posé une question, Étienne, sur la définition du mot foi. Bon, une réponse simple, tu aurais pu la donner. La foi, c'est d'abord ce qui sauve, premier sens, on le trouve au chapitre 3. Il est question d'être sauvé par la foi en son sens, verset 25. Cette foi qui est dans notre cœur devient une foi active. Chaque jour dans la vie, on fait confiance à Dieu. C'est le sens qu'on trouve, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, quand il est dit que le juste vivra de foi, avec toutes les belles les beaux exemples que nous avons en Hébreux au chapitre 11. Et puis alors, il y a un troisième sens. Ma foi... J'ai cru Dieu pour mon salut, mais je crois Dieu chaque fois qu'il parle. Et alors, il y a toute la richesse de la révélation, et c'est ce qu'on appelle, la foi qui a été une fois enseignée aux saints. On trouve l'expression dans l'épître de Jude, tout à fait au début. C'est l'ensemble de ce que nous avons reçu de Dieu. C'est pas quelque chose qui meuble notre intelligence, c'est quelque chose que nous croyons. Et alors, on rejoint tout à fait le sens de ce chapitre 14. J'ai cru que j'étais justifié par la foi, et non par des œuvres, et non par l'obéissance à des règles. Et alors, être fort, c'est justement que cette foi, rentre dans la mécanique de chaque jour, pour me faire pleinement confiance à Dieu, et pour pas faire demi-tour, après avoir cru, après savoir que je suis sauvé uniquement par la foi, pour ne pas en revenir à des règles pour moi-même et quelquefois pour les autres.
La réponse à la question de qui est faible, je crois que elle se pose pas.
elle se pose pas, parce que sinon il faut pas lire la lettre. C'est à nous, et nous sommes tous des forts, puisque nous sommes arrivés à ce stade de la lecture, et quant à celui qui est faible en foi, recevez-le, début du chapitre 14, et nous devons, nous, les forts, porter les infirmités des faibles, chapitre 15. Arrivés à ce stade de la lecture, et quand Dieu nous donne la Bible, il nous la donne pour que nous la vivions, nous sommes des forts. Nous sommes des forts pourquoi ? Parce que nous sommes devenus, par la puissance de l'évangile de Dieu, des gens libres, des gens justifiés, libérés du péché, affranchis de la loi, et puis des gens qui ont, on lit ça dans le chapitre 8, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui n'ont pas de crainte, et des gens qui jouissent de leur liberté, qui sont remplis. Et on revient à ce que Philippe a dit, et je suis frappé que le début de ce chapitre, on a peut-être pris l'habitude de vivre notre vie de chrétien sur la défensive, parce que on est dans un monde qui est mauvais, et il faut faire attention, parce que même sur le plan religieux, il y a les choses les plus belles comme les choses les pires, et donc il faut faire attention. On a été justement enseigné sur la séparation du mal, mais ici, on n'est pas sur la défensive. Le chapitre 8 nous dit, mais vous n'êtes pas dans la crainte, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc le contraire de la liberté, pour être de rechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et puis, il est question un peu plus loin de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Voilà ce que nous vivons, et voilà où on en est maintenant dans ce chapitre. Il s'agit de s'approprier ça, et on arrive dans ce chapitre. Celui qui est faible en foi, ne discutez pas avec lui de ses problèmes de discussion, recevez-le. Voilà, c'est une démarche qui est sans peur, non pas naïve, mais une démarche qui est sans peur, parce que je suis rempli, et je vais recevoir ce frère qui est autre, qui est différent, et on va ensemble vivre. Doré, merci.